Chapitre 74, les doutes. Mystère insondable, comme le caractère de son auteur, la parole de Dieu nous présente des mystères qui ne pourront jamais être sondés à fond par des êtres bornés. L'entrée du péché dans le monde, l'incarnation de Jésus-Christ, la régénération, la résurrection, et plusieurs autres faits présentés dans la Bible, sont des mystères trop profonds pour être expliqués ou même saisis pleinement par l'esprit humain. Mais Dieu nous a donné dans les Écritures des preuves suffisantes de leur divinité, et nous n'avons nullement lieu de douter de celles-ci parce que nous ne pouvons pas comprendre les mystères de sa providence. Dans le monde matériel, nous sommes constamment entourés de mystères impénétrables. Les plus humbles manifestations de la vie sont un problème que les plus sages philosophes sont incapables d'expliquer. De tous côtés se présentent des merveilles qui surpassent notre intelligence. Faut-il donc être surpris qu'il se trouve dans le monde spirituel des mystères insondables? Toute la difficulté se trouve dans la faiblesse et l'étroitesse de l'esprit humain. Dieu nous a donné dans les Écritures suffisamment de preuves de leur divin caractère, et nous ne devons pas douter de sa parole simplement parce que nous ne comprenons pas tous les mystères de sa providence. Le piège du doute, bien que Dieu ait donné des preuves suffisantes pour soutenir notre foi, il n'enlèvera jamais toutes les raisons de ne pas croire. Ceux qui cherchent des échappatoires en trouveront. Et ceux qui refusent d'accepter la parole de Dieu et de lui obéir jusqu'à ce que toutes les objections soient levées et qu'aient disparu tous les prétextes de douter, ne parviendront jamais à la lumière. La méfiance envers Dieu est le fruit du cœur naturel qui a de l'inimitié pour Dieu. La foi, en revanche, est un fruit de l'esprit qui ne prospère que là où l'esprit est apprécié. Nul ne peut devenir fort en la foi sans un effort persévérant. De même, l'incrédulité se fortifie quand elle est encouragée. Celui qui, au lieu de méditer sur les preuves que Dieu lui a données pour fortifier sa foi, se permet de contester et d'ergoter, s'enfoncera de plus en plus dans le doute. Le poids de l'évidence, Dieu ne se propose pas d'enlever tout ce qui pourrait donner lieu au scepticisme. Il donne l'évidence qui doit être examinée soigneusement avec humilité, et par un esprit disposé à se laisser enseigner. Le poids de l'évidence devra alors être décisif. Dieu donne des preuves suffisantes à celui qui veut croire avec candeur. Mais quiconque se détourne de l'évidence parce qu'il y a quelques points que son intelligence bornée ne peut saisir, sera laissé dans l'atmosphère glaciale de l'incrédulité où sa foi fera naufrage. Ne pas se fier à ses sentiments, depuis les origines, le grand plan de la, divine, miséricorde vise à ce que toute âme affligée se confie en son amour. À l'heure présente où votre esprit est hanté par le doute, votre sécurité consiste à vous confier non dans vos sentiments, mais dans le Dieu vivant. Tout ce qu'il vous demande est que vous mettiez en lui votre confiance et que vous le reconnaissiez comme votre sauveur fidèle, qui vous aime et a pardonné vos fautes et vos erreurs. Ne laissez aucun doute voir le jour, veillez aussi attentivement qu'Abraham sinon les corbeaux ou d'autres oiseaux de proie viendront se poser sur le sacrifice que vous offrez à Dieu. Il faut à tout prix empêcher une pensée de doute de venir à la lumière par une déclaration exprimée. Des paroles dites en hommage aux puissances des ténèbres chassent la lumière. La vie du Seigneur ressuscité devrait se manifester sans cesse en nous. Une maladie chronique, être un douteur chronique, qui garde les yeux et les pensées fixés sur soi, est un grand malheur. Aussi longtemps que vous regardez à vous-même, que le moi est le sujet de vos pensées et de vos conversations, vous ne pouvez espérer être conforme à l'image du Christ. Le moi n'est pas votre sauveur. Vous ne possédez pas en vous-même est de vertu salvatrice. Le moi est un bateau qui fait eau de toutes parts, et votre foi ne saurait y trouver refuge. Si vous vous confiez en lui, vous pouvez être sûr qu'il coulera. Le canot de sauvetage. Au canot de sauvetage. C'est là votre seul salut. Jésus, qui est le capitaine de ce canot, n'a jamais perdu un seul passager. Douteur découragé, comment pouvez-vous espérer que votre cœur soit réchauffé par l'amour du Christ? Comment pouvez-vous escompter que sa joie demeure en vous, et que votre joie soit parfaite alors que vous ruminez sur votre caractère imparfait, et que vous vous en nourrissez? L'incrédulité, une perte, nous ne nous rendons pas compte de ce que l'incrédulité nous fait perdre. Sans la foi, nous nous engageons dans une bataille perdue d'avance. Nous avons un Sauveur qui comprend tous les aspects de notre vie. Il comprend nos défaillances et sait exactement de quelle aide nous avons besoin. Nous voulons avoir foi en lui, une foi rendue agissante par l'amour, et qui purifie l'âme. La foi se développe grâce aux luttes que nous menons contre le doute. La vertu se fortifie en résistant à la tentation. Cultiver la foi, rien ne nous encourage à l'incrédulité. Le Seigneur manifeste sa grâce et sa puissance à maintes reprises, et cela devrait nous apprendre qu'il est toujours profitable de cultiver la foi, de parler de foi, d'agir avec foi. Nous ne devons pas laisser nos cœurs et nos mains s'affaiblir en permettant à des esprits méfiants de semer dans nos cœurs les graines du doute et de la suspicion. Maladie nerveuse, l'assurance que Dieu nous approuve favorise la santé physique. Elle fortifie l'âme contre le doute, la perplexité et la tristesse excessive qui si souvent sapent les forces vitales et occasionnent des maladies nerveuses particulièrement débilitantes et affligeantes. Le Seigneur a donné sa parole que ses yeux seraient sur les justes et que son oreille serait attentive à leurs prières, mais que par ailleurs il s'oppose à tous ceux qui font le mal. Nous nous mettons dans de bien grandes difficultés en ce monde lorsque nous agissons de telle sorte que le Seigneur est contre nous. Aucune méfiance à l'esprit, aucun soupçon, aucune méfiance ne doit s'emparer de notre esprit. Le sentiment de la grandeur de Dieu ne doit pas confondre notre foi. Que le Seigneur nous aide à nous humilier en toute simplicité. Le Christ a déposé son vêtement royal et sa couronne afin de s'associer à l'humanité et de montrer que des êtres humains peuvent atteindre à la perfection. Revêtu de grâce, il a vécu dans notre monde une vie parfaite pour nous prouver son amour. Ce qu'il a fait devrait suffire à rendre impossible le fait de ne pas croire en lui. Commandant suprême dans les parvis célestes, il s'est abaissé jusqu'à assumer la nature humaine. Sa vie montre ce que nos vies doivent être. Que le sentiment de la grandeur de Dieu ne nous fasse pas oublier son amour. Le Christ a été un homme de douleur, connaissant la souffrance. Un cœur qui se donne à lui devient une harpe sacrée produisant une musique sacrée. Ne pas se laisser aller au découragement, il, le Père, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Dès lors, quelle excuse avons-nous de prononcer des paroles de découragement, d'incrédulité et de doute, qui nous enveloppent de ténèbres comme un manteau? Repoussons les ombres obscures du doute, rejetons-les comme venant de Satan, l'initiateur de tout doute et de tout découragement. Il cherche à projeter son ombre diabolique sur notre chemin. Mais notre foi doit pénétrer le sombre nuage du doute et de l'incrédulité, et se saisir du bras du Christ. Comment Ellen White repoussa les doutes, quand Satan jette son ombre diabolique en travers de ma route, je ne la regarde pas, je n'en parle pas et m'abstiens de glorifier le malin en parlant de lui, de sa puissance et du moment difficile que je traverse. Je me fraye un chemin à travers l'obscurité et par la foi je me saisis de Jésus-Christ. En le contemplant, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Parlez de foi. Tout doute exprimé est une semence, et cette semence germera dans quelque cœur. Nous nous refusons à prononcer une seule parole de doute et à glorifier ainsi le malin pour le prodigieux pouvoir qu'il a de nous dominer. Je ne le veux pas, car le Christ m'a racheté et m'a sauvé. Satan n'a aucune prise sur moi. Fausses idées sur Dieu, Satan jubile quand il peut entraîner les chrétiens à l'incrédulité et au découragement. Il est heureux quand il voit que nous manquons de confiance en Dieu, et que nous doutons de son désir et de sa capacité de nous sauver. Il aime à nous faire croire que les dispensations divines nous portent préjudice. C'est l'œuvre de Satan de nous représenter le Seigneur comme dénué de miséricorde et de compassion. Il dénature les faits, et remplit les imaginations de notions erronées au sujet de Dieu. Et nous, Nous nous arrêtons trop souvent sur les tromperies de Satan au lieu de chercher à connaître le vrai caractère de notre Père que nous déshonorons par notre manque de confiance et nos murmures. Satan s'efforce toujours de représenter la piété sous un jour sombre. Il désire faire paraître la religion pénible et fastidieuse. Aussi, quand le chrétien présente le christianisme sous ce faux jour, son incrédulité confirme le mensonge de Satan. Fermez la porte au doute, quand Satan survient avec ses doutes et son incrédulité, fermez la porte de votre cœur. Fermez vos yeux afin de ne pas vous attarder sur son ombre diabolique. Élevez vos regards de manière à pouvoir contempler les choses éternelles, et vous aurez la force requise à chaque heure. L'épreuve de votre foi est bien plus précieuse que l'or. Elle vous rend vaillant pour mener le combat du Seigneur, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Satan revendique le monde. Il prétend qu'il lui appartient. Est-ce que nous lui donnerons ce qu'il réclame comme sa propriété ? Loin de là. J'appartiens à quelqu'un d'autre. J'ai été racheté à un grand prix et je me dois de glorifier Dieu dans mon corps et dans mon esprit. Je n'ai pas le temps de parler d'incrédulité. Je dois parler de ma foi. Je dois fortifier ma foi en la mettant en pratique. Ainsi, ma foi grandit à mesure que je m'aventure à me confier dans les promesses de Dieu, et je peux obtenir toujours plus. Béni soit Jésus. Je l'aime parce qu'il est pour moi un réconfort, un espoir et un secours, pour moi et pour vous individuellement. Je désire que vous vous considériez comme sa propriété. Tournez votre visage comme un silex dirigé sur le mention. Pénétrez-vous de l'idée qu'il a là un trésor que vous pouvez obtenir. Une parole de doute en entraîne une autre, une seule parole de doute, une seule parole venant d'une mauvaise pensée prépare la voie à une autre de même nature. Ce sont là des semailles qui annoncent une moisson que bien peu désirent engranger. Des semences qui couvent, ceux qui sont troublés par des doutes et confrontés à des difficultés qu'ils ne peuvent résoudre ne devraient pas plonger des esprits faibles dans les mêmes perplexités. Certains ont fait allusion à leurs doutes, en ont parlé et ont passé outre, sans bien se rendre compte des conséquences. Parfois, les semences de doute ont produit un effet immédiat. Dans d'autres cas, elles sont restées enfouies pendant un certain temps, jusqu'au jour où l'individu concerné a emprunté une mauvaise voie, a cédé le terrain à l'ennemi, a été privé de la lumière de Dieu, et est finalement tombé au pouvoir de Satan. Alors, les graines de doute qui avaient été semées longtemps auparavant germent. Puis Satan les fertilise et elles portent du fruit. Tout ce qui vient des ministres de l'Évangile, lesquels devraient demeurer dans la lumière, exerce une profonde influence. Mais lorsqu'ils ne se sont pas tenus dans la vive lumière de Dieu, Satan s'est servi d'eux comme des agents au moyen desquels il a lancé ses traits enflammés contre des esprits non préparés à résister à ce qui vient de leur pasteur. Croire, un devoir, croyez que la parole de Dieu ne faillira pas, et que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est tout autant de votre devoir de croire que Dieu accomplira sa parole et pardonnera vos péchés que c'est votre devoir de les confesser. Votre foi doit se manifester envers Dieu comme envers quelqu'un qui fera ce qu'il a promis, à savoir pardonner toutes vos transgressions. Comment pouvons-nous savoir que le Seigneur est véritablement notre Sauveur qui pardonne nos péchés, et comment pouvons-nous éprouver la profonde bénédiction que l'on trouve en lui ? La grâce et l'amour prodigieux qu'il a promis de manifester envers les cœurs contrits si nous ne croyons pas implicitement à sa parole ? Oh ! Qu'ils sont nombreux ceux qui poursuivent leur chemin en se lamentant, en péchant et en se repentant, mais enveloppés constamment d'un nuage de condamnation. Ils ne croient pas à la parole du Seigneur. Ils ne croient pas qu'il fera exactement ce qu'il a promis. L'amour du péché démasqué, qu'on la déguise comme on voudra, dans la plupart des cas la cause réelle du doute et du scepticisme, c'est l'amour du péché. Les enseignements et les avertissements de la parole de Dieu ne sont pas agréables aux cœurs orgueilleux et pervers, et ceux qui répugnent à se conformer à ses exigences sont vite prêts à mettre en doute son autorité. Pour parvenir à la connaissance de la vérité, il faut avoir un désir sincère de la connaître et un cœur disposé à s'y conformer. Ceux qui entreprennent l'étude de la Bible dans cet esprit trouveront des preuves évidentes et nombreuses de son inspiration divine, et saisiront ces vérités qui les rendront sages à salut. Le doute est cultivé par les imprudents, le doute et l'incrédulité sont cultivés par ceux qui ne se conduisent pas avec prudence. Ils éprouvent un sentiment de culpabilité et ne se rendent pas compte du fait qu'ils ne sauraient supporter l'examen de l'Esprit de Dieu, soit qu'ils s'expriment par sa parole ou par les témoignages qui les guideraient vers la parole. Au lieu de commencer par s'occuper de leur propre cœur, afin de se mettre en accord avec les principes authentiques de l'Évangile, ils trouvent à redire et condamnent les moyens que Dieu a choisis pour préparer un peuple en vue du jour du Seigneur. Grave lacune en matière d'éducation scolaire, la méthode habituelle employée pour la formation des jeunes ne respecte pas les principes d'une véritable éducation. Des notions d'incrédulité sont introduites dans les manuels scolaires, et les oracles de Dieu sont présentés sous un jour douteux, voire franchement défavorable. Dans ces conditions, l'esprit des jeunes se familiarise avec les insinuations de Satan, et, une fois entretenu, les doutes deviennent chez ceux qui les cultivent des faits avérés. La recherche scientifique devient trompeuse à cause de la manière dont ces découvertes sont interprétées et dénaturées. Que faire avec les doutes? En doutant, vous blessez le cœur du Christ, alors qu'il nous attend et si bien témoigné son amour en donnant sa vie pour nous sauver afin que nous ne périssions pas, mais que nous héritions la vie éternelle. Il nous a prescrit ce que nous devions faire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Comment échapper aux doutes? Nombreux sont ceux qui se plaignent de leurs doutes, qui se lamentent de n'avoir pas l'assurance d'être en communion avec Dieu. Cela provient souvent du fait qu'ils ne font rien dans la cause de Dieu. Qu'ils s'efforcent sincèrement de venir en aide aux autres, de leur être en bénédiction, et leurs doutes et leurs découragements disparaîtront. Ceux qui formulent continuellement des doutes et qui réclament sans cesse de nouvelles preuves pour chasser les nuages de leur incrédulité ne se fondent pas sur la parole. Leur foi repose sur les circonstances. Elle est fondée sur les sentiments. Mais quelque agréable qu'il soit, le sentiment n'est pas la foi. La parole de Dieu est le fondement sur lequel nos espérances célestes doivent être édifiées. Ce qui aggrave les doutes, message adressé à un ministre de l'Évangile, « J'ai vu que les anges de Dieu vous considéraient avec tristesse. Ils n'étaient plus auprès de vous. Ils s'étaient éloignés avec affliction, tandis que Satan et ses anges exultaient de joie à votre sujet. Si vous aviez lutté contre vos doutes et si vous n'aviez pas encouragé le malin à vous tenter en parlant de votre incrédulité et en vous y absentissant, vous n'auriez pas attiré auprès de vous les anges déchus en aussi grand nombre. Vous vous complaisez dans votre scepticisme. Plus vous en parlez, plus vous vous y absentissez, plus vous vous enfoncez dans les ténèbres. Vous vous privez de tout rayon de lumière céleste. Un grand abîme se creuse entre vous et les seules personnes qui peuvent vous aider. Si vous continuez sur la voie où vous vous êtes engagé, vous êtes à la merci de la détresse et du malheur. La main de Dieu vous arrêtera d'une manière qui ne vous plaira pas. Sa colère ne sommeillera pas. Mais aujourd'hui, il vous adresse son invitation. Aujourd'hui, il vous appelle à revenir à lui sans délai. Il vous pardonnera généreusement et remédiera à toutes vos défaillances. Dieu est à la tête d'un peuple particulier. Il blanchira et purifiera les membres de ce peuple et les préparera en vue de la translation. Le trésor particulier du Seigneur sera débarrassé de toute chose charnelle jusqu'à ce qu'il soit comme de l'or cette fois purifié. Les rayons de la lumière divine chassent les ombres du doute, nous devons être remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors nous aurons la vie, la puissance, la grâce et le salut. Comment obtiendrons-nous ces grandes bénédictions? Le Christ est mort pour que nous les recevions par la foi en son nom. Il nous a offert gratuitement la lumière et la vie. Dans ces conditions, pourquoi vouloir enfoncer des clous auxquels nous suspendrons nos doutes? Pourquoi remplir notre esprit de sombres pensées de doute? Pourquoi ne pas permettre aux rayons du soleil de justice d'illuminer les chambres de notre cœur et de notre esprit, et d'en chasser les ombres de l'incrédulité? Tournez-vous vers la lumière, vers Jésus le précieux Sauveur. Au lieu de nous appesantir sur les défauts et les faiblesses de quelque être humain, contemplons le caractère de celui en qui il n'y a aucune imperfection. Jésus se distingue entre 10 000, il est le bien-aimé. Nous ne devons prendre aucun homme pour modèle, car Dieu nous a donné son Fils bien-aimé pour parfait modèle, et en le contemplant, nous serons transformés à son image. Regardez à Jésus-Christ, dont le trône est élevé et exalté. Les pans de sa gloire remplissent le temple.